Vous êtes sur Studio ZEF à Blois ou Radio Béton à Tours et c'est l'heure de Feuilles Vives, l'émission de reportage entre ville et campagne. Quatorzième Feuille Vive aujourd'hui. Pour ce dernier reportage de l'année, on part du côté de Saint-Dié-sur-Loire et sa Maison de la Loire. Une association qui compte une centaine d'adhérents, 4 salariés, et qui mêle écotourisme, sensibilisation au tri des déchets ou aux inondations, et surtout éducation à l'environnement. François est chargé de l'accueil du public, c'est souvent lui que l'on rencontre en premier lorsqu'on pénètre dans la Maison de la Loire.
Notre mission est de promouvoir et de mettre en avant tout ce qui est milieu ligérien. Milieu ligérien, donc tout ce qui entoure la Loire. Faune, flore, un petit peu d'histoire, culture, géographie, un petit peu de tout, quoi. Pour ça, on intervient principalement auprès des publics scolaires, mais aussi périscolaires, et puis auprès du grand public pendant la saison où on organise des sorties pour aller voir les castors, pour parler de différentes espèces qui sont propres à la Loire, mais aussi pour découvrir le paysage, la flore. Donc on essaie de mettre en place différentes activités qui vont allier le plaisir et la découverte. Voilà. Donc on a ce rôle-là d'association d'éducation à l'environnement. On a aussi un rôle de coordination au niveau un petit peu des associations locales, c'est-à-dire que c'est nous qui prenons les réservations pour les balades bateaux pour une autre association qui s'appelle les Marins du Port de Chambord. On essaie aussi de valoriser les visites villages, c'est une autre association de Saint-Dié qui s'appelle Tour et des Tours. Et puis on a aussi un volet maison du tourisme, puisque dans l'histoire de la Maison de la Loire, les deux étaient séparés et finalement la Maison de la Loire a récupéré ce volet-là, ce qui nous permet de pouvoir aussi accueillir des touristes qui sont là simplement pour visiter la région, et donc de mettre en avant non seulement château, tout ce qui est à voir au niveau culturel, mais aussi l'aspect nature du département. Il y a plein d'espèces qu'on n'avait pas forcément repérées, on a plein de gens qui habitent le coin qui disent « Ah bon, il y a des castors ici ?» Ben oui, il y en a. Ils ont été réintroduits dans les années 70 et il y en a beaucoup qu'on peut voir. Donc voilà, ça amène les gens à s'arrêter un petit peu, à observer. Le but ultime, c'est évidemment de prendre soin, c'est-à-dire qu'on voit que tous les domaines sont touchés, c'est-à-dire la gestion des déchets, prendre soin aussi du patrimoine qu'on a autour de soi, hein. Et puis les gens locaux, quand ils ont des invités, à faire partager ces moments-là. Le balbuzard pêcheur, par exemple, qui niche à Chambord, c'est un oiseau magnifique qu'on peut voir pêcher, mais si on ne fait pas attention, on ne sait pas que c'est une espèce comme ça, qui fait 1,50 m d'envergure, qui va plonger dans la Loire pour aller pêcher. Enfin bon, voilà, ça fait partie de cette promotion-là, de cette éducation-là. Ça fait partie aussi des gens qui peuvent nous téléphoner pour dire « Tiens, j'ai ce... » Parce qu'ils ont été titillés à un moment donné sur la nature. « Ah, tiens, j'ai remarqué qu'il y avait un oiseau qui venait dans mon jardin et qui est super joli. Et qu'est-ce que c'est ?» Et donc, ça nous amène à discuter. Donc, je pense que ça... Le but, c'est aussi d'amener les gens à regarder. Voilà, à regarder ce qu'ils ont autour d'eux et à redécouvrir un petit peu la chance qu'ils ont d'habiter là. Voilà.
Réapprendre à observer et à s'étonner de notre environnement quotidien. Même dans les campagnes, la majorité des habitants ont leur emploi et leurs loisirs en ville. Un habitat rural désincarné, souvent détaché du milieu naturel, du tissu économique et de l'histoire de sa propre commune. C'est l'un des effets de la rurbanisation. Des urbains s'installent à la campagne pour des raisons de cadre de vie, mais s'impliquent de façon minimale dans le développement de leur commune. Leur emploi, mais aussi leurs loisirs et leurs emplettes, tout est fait dans la ville la plus proche. Résultat, même dans les zones rurales dynamiques, ce sont souvent les villes moyennes qui tirent leur épingle du jeu aux dépens de la campagne environnante, transformée dans le meilleur des cas en zone pavillonnaire. Saint-Firmin-des-Prés, petit village situé à moins de 10 km de Vendôme. La majorité des habitants travaillent à la ville toute proche et y scolarisent même ses enfants. C'est plus pratique, mais cela témoigne aussi du faible attachement des habitants pour leur commune. Résultat, l'école de Saint-Firmin ne compte aujourd'hui plus que 2 classes contre 5 il y a quelques années. Mais pourquoi vous parler de ce bourg de l'agglomération vendômoise ? En cette matinée d'automne, Marie-Laure, l'animatrice nature de la Maison de la Loire, se rend à l'école de Saint-Firmin, située à quelques mètres des rives du Loir, pour parler du risque d'inondation. On l'écoute.
Ça concerne les écoles où une partie de la commune est en zone inondable. Donc ça permet vraiment aux enfants de voir ce qui peut se passer sur leur commune, de voir pourquoi il y a des crues et puis surtout de dédramatiser, de se rendre compte que finalement, même quand on a une maison en zone inondable, il existe des solutions pour réduire les dommages dans sa maison et puis qu'il y a tout un système de prévision des crues aujourd'hui qui n'existait pas avant. Voilà, et puis il y a des moyens de protection aussi qui existent, donc c'est pour permettre aux enfants un petit peu de connaître tout ça. On échange avant avec l'enseignante pour préparer l'animation. Donc nous, on va avant, parce que ça, c'est sur un secteur assez large. Avant, c'était que sur la Loire. Maintenant, c'est sur les affluents. Donc nous, on ne connaît pas tous les territoires. Donc on va repérer avant, en général. On prend une demi-journée pour aller repérer sur le terrain, pour regarder un petit peu où est l'école. On prend les cartes de zone inondable pour vraiment bien que ce soit au point. Donc ensuite, la demi-journée en classe, donc c'est vraiment, donc on a une carte métallique où on commence avec les élèves doivent replacer donc des villes sur la Loire, des mots de vocabulaire liés au fleuve, donc des fois ils l'ont fait avant en classe, des fois pas, ça dépend, des affluents de la Loire. Donc voilà, donc on regarde déjà un petit peu tout ça, on resitue la Loire, on resitue leur ville à eux par rapport au bassin de la Loire. Ensuite, on regarde un petit peu la différence entre qu'est-ce qu'une crue. Donc sur une maquette, on va mettre la maquette en eau. On va regarder ce que c'est une crue, donc qu'est-ce qui se passe quand on a une crue. Parce qu'une crue, au départ, c'est simplement la montée des eaux de la Loire, en fait. Et c'est un phénomène naturel où, au départ, c'est quelque chose de positif, en fait, une crue. Donc ça va fertiliser les sols, ça va remettre en eau les bras secondaires, les milieux qui peuvent être à sec à d'autres moments de l'année. Et puis voilà, donc on essaie de faire comprendre aux enfants qu'à l'origine, c'est quelque chose de naturel et de positif et que c'est en s'installant finalement au bord de la Loire qu'on a créé le risque. C'est nous qui l'avons créé.
Donc là, je vais vous distribuer à chacun une maison et il va falloir placer votre maison. Alors votre maison, vous pouvez la placer où vous voulez sur la maquette, sachant que dans la réalité, évidemment, il y a des maisons qui sont installées sur le coteau. Mais il y a aussi des maisons ensuite qui se sont installées dans le lit majeur du fleuve. Alors c'est parti. Donc dès que je vous donne votre maison, vous venez la placer, puis après vous reculez pour qu'il y ait là, que tout le monde puisse. Allez-y, placez-la. Je vous donne de ce côté-là.
Il y a des petites, des grandes.
Je donne au hasard. Ça ne veut pas dire que vous avez une petite maison. Donc là, vous avez placé vos maisons. Je remarque une chose, c'est que la plupart, vous êtes installés dans l'île majeure. Donc vous ne devez pas trop tenir à votre maison, à vos affaires dedans, etc. C'est pas grave, c'est pour voir ce que ça fait. Donc là, le château est sur le coteau. Où est-ce qu'on serait le plus en sécurité ?
Sur le coteau.
Là où on est le plus en sécurité, c'est-à-dire moi, si j'aurais placé ma maison, je me serais peut-être installée sur le coteau. Mais je vous ai dit, il faut faire le plus proche de la réalité. Dans la réalité, il y a des maisons ici, donc c'est très bien. D'accord ? Mais il faut savoir que là où on est sûr d'être en sécurité, c'est sur le coteau. Ok ? Maintenant, alors moi, je ne veux pas que vous soyez inondés, parce que c'est votre maison, il y a toutes vos affaires dedans. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble comment on peut faire pour protéger vos maisons. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura de crues que dans 100 ans, donc on ne sera plus en vie, mais peut-être qu'il y en aura une l'année prochaine. Donc comment on peut faire pour protéger toutes vos maisons là, qui sont installées dans le lit majeur du Loir ? Oui ?
On peut les déplacer.
Alors elles sont installées là, alors en effet on peut se dire on pense que peut-être qu'il y aura une crue l'année prochaine, ou peut-être on sait pas trop, donc on se dit on déménage, mais bon ma maison moi j'y tiens et j'ai pas trop envie de la déplacer.
On la détruit, on la reconstruit.
Ok. Si on n'y tient pas trop, est-ce que vous tenez à votre maison ou pas, vous, chez vous ?
Non.
En général, on tient à sa maison quand même. Donc, on n'a pas envie de la casser et d'aller la construire ailleurs, notre maison. Oui.
Justement, on peut faire un village ou une ville.
Où ?
Bah là.
Je Alors, un village ou une ville, ça veut dire qu'on installe plusieurs maisons ici, mais comment on va faire pour les protéger, nos maisons? Pour éviter que si le Loir monte, il y ait une... Alors, levez la main, mais j'entends des choses intéressantes. On peut faire un mur, d'accord? Ça veut dire qu'en effet, on peut faire un mur pour protéger nos maisons qui sont de l'autre côté. Sur la Loire, ça se fait beaucoup, ça s'est beaucoup fait, et on continue de l'entretenir, le mur. On appelle ça comment? Un mur qui est au bord de l'eau et qui protège les maisons. C'est pareil au bord de la plage. Je sais pas si vous connaissez sûrement le terme, mais vous avez peut-être pas pensé. Ça, non, un barrage, on en parlera après, mais t'as raison, c'est aussi un autre moyen de protection. Ça commence par un D. Non, presque. Une digue. Vous avez déjà entendu le mot digue? Une digue, ça va être un mur qui va nous protéger de l'eau, des inondations, qui va protéger nos maisons. Sur la Loire, on appelle ça une levée. Si vous allez à Blois prochainement, vous regarderez, quand vous longez la Loire, vous êtes largement en hauteur par rapport à la Loire. C'est parce que vous êtes en train de rouler sur ce mur qui a été construit pour protéger les maisons. D'accord. Donc là, on va juste construire le mur et puis ça va être l'heure d'aller manger. On continuera après.
On essaie à chaque fois de trouver un site intéressant à côté de l'école, mais bon, c'est pas toujours le cas parce qu'il faut qu'il y ait quand même de quoi. Bah, évidemment, il faut que le cours d'eau soit pas trop loin de l'école pour qu'on puisse s'y rendre soit à pied ou à vélo. Il y a des écoles qui, des classes qui viennent à vélo. Donc faut qu'on puisse, faut qu'il y ait des choses qui parlent aux enfants. Donc faut qu'on puisse au moins faire une petite lecture de paysage pour resituer un petit peu les éléments qu'on a vus en classe. Donc qu'on puisse resituer le lit majeur, le lit mineur du cours d'eau, la zone inondable, le coteau quand les coteaux sont visibles. Et après, on s'appuie vraiment sur le terrain en fonction de ce qu'il y a sur le terrain. Donc des fois, on a la levée, des fois, on a des déversoirs, des fois, on a des barrages pour les moulins. Donc ça nous permet de regarder un petit peu les conséquences que peuvent avoir même de simples petits barrages comme ça. Et puis des fois, on a un peu moins de choses, donc on apporte aussi, nous, en fonction de ce qui a été fait en classe avant, on a une grande bâche où on peut recréer le cours d'eau, on peut remettre des moyens de protection. Donc des fois, on distribue à chaque enfant une maison, donc il doit placer sa maison et essayer de protéger sa maison, donc sans qu'on ait abordé forcément avant les levées, les choses comme ça. Voilà, ça dépend vraiment du terrain et on essaie que ça parle le plus possible aux enfants, en fait.
Mais comment on fait ça?
Eh ben, en se basant sur le territoire qu'ils connaissent, en fait, en allant vraiment dans le territoire qu'ils connaissent, et puis essayer de partir d'eux, de ce qu'ils connaissent déjà, de ce qu'ils savent sur le cours d'eau, de ce qu'ils savent sur les moyens de protection. Et puis après, évidemment, il y a des choses qui sont apportées, mais voilà, c'est vraiment en restant dans l'environnement d'où ils habitent, en fait.
Là, il y a quelque chose d'intéressant au milieu de l'eau. Je vous montrerai une image tout à l'heure. Là, vous avez un barrage. Je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, là, vous avez un barrage sur le Loir.
Ouais, on n'avait jamais remarqué.
Ouais, donc quand on voit... Bah là, en même temps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de feuilles, donc on le voit bien. Mais là, vous avez un barrage.
Arrêtez, vous voyez.
Allez, on continue. On en parlera
après. Tu t'arrêtes de jouer.
Donc là, vous avez une plaque. Donc c'est l'établissement public Loire, un établissement qui pose des plaques un peu partout comme ça. Vous avez un petit paragraphe sur les causes des inondations, donc ce qu'on a vu un petit peu ce matin. Vous avez un petit paragraphe sur les conséquences des inondations. Vous avez la carte de zone inondable qui est là, celle que je vous ai montrée ce matin, sauf que là tout est bleu. Donc là on voit où on est, hein. Donc on voit que tout le bourg de Saint-Firmin est en zone inondable et nous là on est dans le lit majeur du Loir encore. Et puis là vous avez qu'est-ce qu'un repère de crue et vous avez ici l'échelle de crue. Donc l'échelle de crue elle vous permet de voir jusqu'où l'eau du Loir est déjà montée. C'est-à-dire que là dans cette zone là vous aviez cette hauteur d'eau là. D'accord.
Ça va, on n'est pas mort.
Bah ouais, nous.
Évidemment, en effet, cette hauteur d'eau là dans une maison. Cette hauteur d'eau là dans une maison, c'est embêtant parce que forcément il va y avoir des choses détruites, etc. Nous, il faut s'imaginer que s'il y a cette hauteur d'eau là, nous ne pouvons plus marcher ni nager dans le Loir. Parce qu'il y a l'hauteur d'eau, mais il y a aussi le débit qui est important. Se dire que là, s'il y a cette hauteur d'eau là, nous on sera en danger, évidemment, il va falloir aller sur le coteau. D'accord ? Il ne faut pas rester dans une zone comme ça. Donc là, juste pour vous lire ce petit paragraphe là, donc quelles sont les causes des inondations ? Donc on vous dit ici, les inondations sont provoquées par les crues du Loir, engendrées par de longues périodes de précipitations venues de l'Atlantique, c'est ce qu'on a vu ce matin, qui surviennent surtout en hiver. Dans ce secteur, le champ d'inondation du Loir atteint 1,1 km de large. C'est-à-dire que le lit majeur, le lit mineur, il est petit, le lit majeur, il peut s'étendre sur 1 km.
de large, d'accord, en largeur, jusqu'au coteau, en fait. On vous dit aussi, par débordement naturel de la rivière, d'accord. Là, on dit la crue de 1961, supérieure à celle de 1983 et 95, reste à ce jour la plus forte observée sur la commune depuis plus d'un siècle. Donc, vous aviez celle de 1665, mais là, la plus récente, depuis plus d'un siècle, c'est 1961, la plus forte. Donc là, cette hauteur d'eau-là, ça doit être la hauteur d'eau de 1961. Ok, donc pas si vieux que ça. Et on vous dit, il y en a eu une après en 83, 1995, on a vu 2001, etc.
Quand j'ai appris que l'école était inondable...
Béatrice Legout est enseignante à l'école de Saint-Firmin-des-Prés. C'est elle qui a voulu faire venir l'équipe de la Maison de la Loire dans sa classe pour parler d'inondation.
Pour moi, il était important de le savoir, à ce que les enfants... Enfin, pas les enfants le sachent, mais en prennent conscience, en fait, pour après eux... auprès des familles, parce que c'est souvent le rôle de l'école d'essayer de faire un peu rebondir les gens, en fait.
Sensibiliser les parents au travers des enfants, en fait.
Oui, voilà, d'accord. Ce qui est, pour moi, un des rôles de l'école. On peut parler de l'eau de différentes façons, le cycle de l'eau, comme on l'avait vu en classe, au travers des fleuves, des rivières. Et étant donné que l'école est juste au bord du Loir, je trouvais intéressant de travailler là-dessus. On a eu Perche Nature, Valdem, et puis maintenant la Maison de la Loire du Loir-et-Cher.
Et qu'est-ce que ces acteurs associatifs apportent en termes pédagogiques ?
Alors en termes pédagogiques, c'est une connaissance de la vie locale, déjà. Donc, ce qui est très important pour les enfants qui sont dans l'école depuis la maternelle, ce qui est le cas de cette classe de CE2, CM1, CM2. Ça leur apporte du vocabulaire, un champ lexical assez important. Et puis, de savoir comment est fait leur village. Donc là, on a vu qu'il y avait des risques, mais aussi des endroits sans risque. Donc c'est important pour l'enfant de se construire après.
D'accord.
En fait.
Et pourquoi faire ce lien avec la vie locale et la géographie locale et ces choses-là, c'est important pour vous ?
Parce que je travaille en compétences transversales. Et que sur un thème, on peut varier donc différentes matières. Et le fait de travailler de cette façon apporte beaucoup aux enfants. Je trouve que c'est une façon de bien retenir ce qui est fait pour les associations. En intervention dans les classes, justement. Ça leur permet de manipuler, en plus. Et la manipulation apporte de la mémoire visuelle, auditive. Et je trouve que c'est ludique et plus facile pour l'enfant.
D'accord. Et donc, faire appel à des associations du coin, c'est un moyen aussi de développer cette connaissance-là locale.
Alors, c'est un moyen, oui, de travailler avec eux. C'est un partenariat. C'est aussi montrer aux enfants qu'il y a des associations, qu'un tissu associatif peut être, un milieu associatif peut être important pour eux, de les connaître, de savoir où sont implantées ces associations-là, ce qui peut leur donner des repères, un milieu de recherche, pour des exposés, pour assouvir leurs connaissances, aller plus loin après, encore une fois, quand ils seront au collège. C'est important de savoir que ça existe, qu'elles existent. Elles apportent surtout, comme aujourd'hui, une grande maquette en classe que moi, je n'ai pas du tout, que l'école n'a pas du tout. Et... Oui, oui, elles apportent un savoir avec des connaissances parce que ce sont des personnes qui sont qualifiées sur un sujet bien particulier et qui amènent un matériel assez précis, assez concis autour du sujet. Donc c'est ça qui est très très important pour les enfants et la façon qu'ils ont après de se représenter leur vie locale.
Je viens d'acheter cette maison là-bas, au bord du Loir. Donc c'est une super maison, sincèrement, j'ai la vue sur le Loir, c'est magnifique. Sauf que j'ai... Non, c'est pas vrai. Sauf que j'ai plus ou moins entendu parler, j'ai reçu un document dans ma boîte aux lettres, j'ai plus ou moins entendu parler que j'étais en zone inondable. Moi, je n'y connais absolument rien, d'accord. Je viens de débarquer à Saint-Firmin-des-Prés, c'est un joli village, j'ai le Loir à côté. Apparemment, il y a un barrage, un ancien moulin, enfin bref, j'y connais pas grand-chose. Et puis on m'a dit, c'est en zone inondable, j'ai reçu ça, j'ai eu l'information, etc. Donc moi, j'aimerais avoir des conseils. J'aimerais savoir, si jamais on m'annonce une inondation dans 2 jours, qu'est-ce que je dois faire? Évidemment, il faut penser à Gribouille. Gribouille, vous savez qui c'est Gribouille?
C'est un chat.
Gribouille, mon chat, c'est mon chat.
C'est vrai?
Donc il faut penser à Gribouille. Et j'aimerais que vous puissiez me lister tout ce que vous me conseillez de faire si jamais dans 2 jours, il y a une inondation qui est prévue. C'est-à-dire, moi, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi, j'y connais rien. Est-ce que je reste dans ma maison? Si je pars, où est-ce que je vais, etc. Qu'est-ce que je dois faire pour mes meubles? Est-ce qu'il y a des choses que je dois emmener? Est-ce qu'il y a des choses que je dois laisser? Je ne sais pas. Il faut tout me dire ce que je dois faire, parce que moi, j'y connais absolument rien. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le cas où j'ai 2 jours pour me préparer. Pendant ces 2 jours, qu'est-ce que je vais devoir faire? Donc ne levez pas la main, vous allez travailler par petits groupes et vous allez noter vos idées, d'accord?
Attends, bah sinon, mais les deux idées, soit elle prend les objets les plus importants et elle monte en haut, ou soit elle prend ses bagages et puis elle part avec son chat. Bah non, parce que bah justement, elle va partir chez sa maman.
T'écris étape 1, tac tac, et on écrit.
Donc j'espère que vous, c'est mieux, parce que dans l'autre groupe, je dois rester dans ma maison et me noyer, donc j'ai un peu peur.
Là. Oh là.
Non, je plaisante, ils disaient ça pour plaisanter. Vous avez des conseils à me donner?
Oui, deux.
D'accord, et bien notez-les.
Alors, on a dit mettre les objets importants et meubles dans la chambre du haut. Vas-y, écris. Faire ses bagages.
Bah oui, c'est bien.
Faire ses bagages. Et partir chez sa mère.
Ouais, après, si elle habite dans le
verre ou sa mère.
Si elle habite en Espagne, tu vas aller en Espagne, toi?
Bah oui. Pendant deux jours.
Elle est aux États-Unis, tu vas y aller, toi?
Ouais. Tu prends l'avion, c'est trop sa mère, elle est dans l'avion.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Mettre les objets et meubles dans la chambre du haut. Ok, ça, je suis d'accord. Moi, il y a des choses que je vis toute seule.
Et puis, tu restes.
J'ai oublié un petit truc. Moi, je suis pas très forte, j'ai vite mal au bras. Alors, il y a des choses que je vais pouvoir monter.
Ouais, mais t'as pas.
Mon canapé, mon frigo, je pourrais pas le monter. Donc, essayez de réfléchir. Qu'est-ce que je fais dans mon canapé et mon frigo?
Bah, faire pas la tête. C'est important, par exemple, les cadres.
Ok, donc faut me dire les objets importants. Et bien ça, note-le.
Oh, c'est bon, les objets importants.
Et notez ce que c'est pour vous des
frigo,
objets importants.
Est-ce que frigo, c'est quoi c'est les important. Objets importants pour vous? La nourriture, c'est dans un frigo.
Et toi, c'était quoi pour toi les objets importants?
Par exemple, si y avait ton grand-père qui est mort, qui t'avait donné des objets à lui, bah tu les emmènes.
En effet, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on pourra pas racheter en fait, tout simplement.
Oui.
C'est pas forcément les choses qui coûtent le plus cher, c'est les choses qu'on ne pourra pas racheter. Donc c'est peut-être ça en priorité, c'est vrai qu'il va falloir que je mette dans la chambre du haut.
Le TGV.
Prendre le TGV. Non.
Et aller chez sa maman.
Prendre son chat. Gribouille, c'est un nom bizarre pour son chat.
Et pas.
Mais si. Gribouille.
Tu l'appelles discothèque, c'est un nom bizarre.
Moi, je l'appelle coquin.
Sa grand-mère.
Sa maman, sa voisine.
Non, parce qu'elle est en plus, elle aussi.
Non, sa maman.
Enfin,
non, sa maman qui est en Australie, on va dire.
Ouais. Non,
sa maman qui est en Espagne.
Départ de Saint-Firmin, retour à Saint-Dié, à la Maison de la Loire. Association d'éducation à l'environnement, écotourisme, boutique, ce mélange d'activités, cette diversité de missions rendent l'action de la Maison de la Loire difficile à identifier. Malgré sa forte implication locale et son implantation au cœur du bourg de Saint-Dié, les habitants peinent à s'approprier cette Maison de la Loire. On retrouve François à l'accueil pour le mot de la fin.
C'est un travail qui nous reste à faire, de valoriser la Maison de la Loire au niveau de Saint-Dié. Je pense que les Déodaciens, les habitants de Saint-Dié, savent qu'il y a la Maison de la Loire. Après, de savoir quel est son rayonnement et quelle est sa fonction spécifique, je pense que, évidemment, tous les habitants de Saint-Dié ne le savent pas, mais c'est notre travail à nous de faire ce travail-là. Ça passe bien souvent par les enfants. Donc voilà, donc on participe aussi à des manifestations où les gens, comme les échappés de la Loire à vélo, où les gens peuvent descendre et voir des animations gratuites, amener leurs enfants pour voir les petits insectes qu'il y a dans la Loire, repérer des petites choses comme ça. Donc ça fait partie aussi de nos missions, de faire... émerger au point de vue des habitants la chance qu'ils ont d'avoir un établissement comme ça sur leur commune.
Voilà, c'est la fin de cette émission de Feuilles Vives avec un reportage sur la Maison de la Loire de Saint-Dié et plus précisément sur ses actions de sensibilisation scolaire au risque d'inondation. Prévention des risques, mais aussi éducation à l'environnement naturel et patrimonial, dans des territoires ruraux où le lien entre les habitants et cet environnement s'est pour le moins distendu. Son intégration dans l'enseignement scolaire au travers d'associations locales semble un bon moyen pour ancrer des populations à la culture urbaine dans le territoire rural qu'elles habitent. C'était le dernier reportage de cette année 2017 et le 14e depuis le début de l'émission en juin dernier. Dans deux semaines, l'équipe de Feuilles Vives va s'enfermer en studio pour changer et revenir sur ces 6-7 premiers mois d'émission et sur les différents thèmes qu'on a eu l'occasion d'aborder sur cette période. Culture, agriculture, circuit court, aménagement du territoire, démocratie participative, etc. etc. L'occasion aussi d'aborder ce qui vous attend dans les premiers mois de l'année 2018, avec notamment la prochaine sortie plateau de l'équipe de Feuilles Vives qui est en train de se dessiner au moment où je vous parle. Bon week-end, bonne fête de fin d'année et en cette période de super consommation, restez le plus loin possible des supermarchés. À bientôt.
Quelle belle vallée avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers. Elles font tout en larmes à chaque coup de feu d'une arme. Les charrues, les chariots, les chenus et les chevaux tombent en rade. Quelle salade à chaque coup de claironnade. Ensoleillé, avec son seigle, avec son blé semé. Quelle belle vallée,
avec ses chênes, ses châtaigniers, avec ses frênes, ses peupliers.